partenariat avec Deezer.
À écouter dès maintenant
sur franceinter.fr. France Inter.
La différence.
Il est en studio, Daniel Mermet, pour la basse, j'y suis, mais avant, il y a toujours un répondeur.
Mise au point sur le 1er mai pour M. Sarko et Mme Le Pen. Le 1er mai, ce n'est pas un jour de fête. Le 1er mai, c'est une commémoration de l'assassinat des ouvrières de Chicago en 1886 et plus tard à Fourmi, les ouvriers et ouvrières à Fourmi. Donc ça n'a rien à voir avec une fête. Les prolétaires sont peut-être pas très intelligents, mais pas assez cons pour fêter une fête du travail, mot qui vient de l'esclavage. J'ai été ouvrière la plus grande partie de ma vie. Je suis vieille, mais je n'oublie pas d'où je viens. Je pense que nous devons lutter pour le 1er mai, un 1er mai de lutte, tous unis, et pour vaincre tous ces salopards qui nous exploitent.
Allô, je suis maire d'une petite commune socialiste. Je voulais réagir sur le vote du Front National et simplement dire que dans ma commune qui est très calme, bien sûr, il y a eu de nouveau cette montée, comme ailleurs, mais qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup d'égoïsme là-dedans. Chacun regarde son nombril, a peur de perdre le peu de choses qu'il a, qu'on lui marche sur les pieds, sur ses plates-bandes. Et donc, c'est là-dessus qu'il faudrait jouer très peu de solidarité et beaucoup, beaucoup d'égoïsme. Donc, ne nous creusons pas la tête, mais essayons de faire en sorte que nos concitoyens soient un peu plus solidaires. Voilà.
Bonjour, donc je suis une électrice du PS depuis 50 ans, mais cette fois-ci j'ai voté Front National, comme beaucoup d'autres personnes, vote de protestation contre les délinquances, l'immigration, etc. Moi je suis personnellement harcelée depuis 10 ans par ce genre de personnes, donc j'en ai vraiment par-dessus la casquette, et je préviens Monsieur Hollande, mais je ne suis pas la seule, que s'il maintient son droit de vote aux étrangers, même si ce n'est que localement, eh bien il va perdre 3 millions de voix du FN, des gens mécontents comme moi, et etc. Et ça, je l'entends de tous côtés. Donc c'est un avertissement que j'aimerais beaucoup qu'il entende, Monsieur Hollande. Voilà, je suis Gabrielle de Clermont-Ferrand. Merci, au revoir.
Salut Daniel, c'est Yvan de Châteauroux, là. Je t'appelle au sujet de l'émission là, sur le Front National. Avec Dominique Vidal. Là. Par contre, bon, c'est intéressant ce qu'il dit, mais bon, il oublie quand même l'essentiel. Là, c'est la gauche, c'est à cause de la gauche que le Front National est comme ça. Hein. C'est la gauche qui a créé l'impasse hein, depuis 80, hein, parce que le Front National en 80, il avait à peine 300 militants, hein, c'était, il n'existait pas. La gauche, elle a déçu depuis 30 ans, elle déçoit. Et les gens, ben voilà, il n'y a plus de militants dans les boîtes. Il y a combien de cellules du Parti communiste qui n'existent plus dans les entreprises. Tout ça ben, fait que ben, le terreau, il est là, avec la misère et tout, etc., pour que ces idées se développent dans la classe ouvrière. Alors voilà, je voulais le dire. Il faut savoir qu'en 81, moi j'avais 11 ans, mon père, il sabrait le champagne. Hein, il a été pompiste et tout, c'était Ciao Panta, mon père, tu vois. Donc il a eu une vie de galère et tout, etc. Il a 64 ans maintenant, il galère tout le temps, il est obligé de fendre du bois à la hache. Hein, comme au début du siècle, pire que chez les bolcheviques ou chez les nazis, ce que tu veux, hein, pire, et ben tu sais quoi, et ben ils votent pas encore Front National, parce que je suis là encore pour défendre certaines idées. Et ben c'est bien, il faut qu'on continue, mais il faut pas oublier ça, que la gauche, c'est elle qui a déçu, c'est elle. Salut Mermet.
Vous savez ce que je vois, moi? C'est que le principal point commun du second tour de la présidentielle de 2012 avec celui de la présidentielle de 2002, c'est que c'est encore un Corrézien qui est chargé de sauver la démocratie. La différence, et elle est de taille, c'est qu'en 2002, c'est le président sortant qui était chargé de cette mission. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois tout le monde s'affoler à cause du score de Le Pen. Mais ce coup-ci, il n'y a pas de Le Pen au second tour. Alors ce n'est pas contre Le Pen qu'il faut se mobiliser. Pourtant, comme en 2002, il s'agit de sauver la démocratie. Chirac, finalement, n'a pas réussi. Je n'aimais pas Chirac, mais je lui reconnais d'avoir compris que Sarkozy représentait un véritable danger. Il a tout fait pour l'empêcher d'accéder à l'Élysée, mais il a échoué. Il avait tellement raison de penser que Sarkozy était dangereux que celui-ci a su capter en 2007 plus d'un tiers des électeurs du Front National. D'où son score de 31% au premier tour de 2007, alors que Chirac n'avait pas atteint les 20% en 2002. D'où le score le plus bas qu'ait fait le Front National depuis 1988, dont je vous rappelle qu'il était déjà à 14,4%, puis 15 en 95, et là il était tombé à 10,4%. Chirac a échoué parce que le danger venait de son propre camp. Alors il n'avait pas les coups des franges pour le combattre. Et Sarkozy a gagné l'élection de 2007. C'est pour ça que la différence essentielle du second tour de cette année par rapport à celui de 2002, c'est que c'est le président sortant qui constitue actuellement la plus grande menace pour la démocratie. Mais c'est aussi la raison pour laquelle les Français ne se mobilisent pas autant qu'en 2002. Les Français, ils savent se mobiliser que contre Le Pen. Mais ce n'est pas contre Le Pen qu'il faut se mobiliser, c'est contre Sarkozy. Alors comptons à nouveau sur le Corésien de service pour écarter cette menace. Hollande a un atout par rapport à Chirac. C'est que celui qui menace la démocratie n'est pas dans son camp. Mais je vous en supplie, ne vous trompez ni d'ennemis, ni de mobilisation.
Merci Claude pour ce message. Merci à toutes et à tous pour tous ces messages trouvés dans la boîte vocale de la Bassi. J'y suis au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, la com. La com. Qu'est-ce que c'est la com? La com, c'est un monstre doux. La com. C'est pas la propagande, c'est pas la réclame, c'est pas la pub, c'est la com. La com, c'est, tu vois, c'est comme une passerelle, c'est comme un pont. Tu vois, c'est comme un pont pour porter le message jusqu'à l'autre, jusqu'à la cible. La com, c'est choisir la bonne image, c'est trouver le bon mot, la bonne musique, c'est choisir les bons acteurs, la bonne lumière, les bons fumigènes, la bonne illusion, si tu veux, la bonne farine pour te rouler dedans, espèce de client. Voilà ce que c'est que la com. Enfin, on va essayer d'en savoir quand même un petit peu plus. Jusqu'à 16h dans la base, j'y suis. Un reportage de Pascal Pascariello et Gaylor Vanvimersch. La com. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à vous, amis modestes et géniaux du repère de Rosée et de France. Je vous propose de nous rejoindre demain, jeudi 26 avril, au canon à pâte, pour imaginer un autre monde. Partons d'un petit scénario. Les politiques économiques ne changent pas et une catastrophe naturelle arrive aux États-Unis. Ouragan, tsunami, qu'importe. Les assureurs doivent rembourser leurs clients des dégâts subis. Le coût du remboursement met les assurances en faillite, qui entraîne avec elles les banques américaines puis mondiales. Le système bancaire est par terre. Que fait-on? Nous avons déjà quelques idées sous le coude, mais venez nombreux avec vos propres propositions, ainsi le débat n'en sera que plus intéressant. D'ailleurs, un AMG du 44 a eu quelques échanges avec Frédéric Lordon, qui nous a répondu que lui avait une solution claire à proposer. Nous avons donc hâte de l'entendre à la Bassi Jiffy. Alors, le rendez-vous, jeudi, à 19h30 au Canon à Pâte, rue Alsace-Lorraine à Rosay, dans la banlieue nantaise.
Salut les AMG, alors des nouvelles encore de Honeywell à Condé-sur-Noireau, dans le Calvados, 323 personnes sur le carreau en juin 2013. Donc, eh bien, aujourd'hui encore une grande misère avec le groupe Honeywell. Aujourd'hui, nous avons eu la visite d'un interlocuteur pertinent, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un ponte du groupe Honeywell qui est venu sur le site, eh bien, pour nous faire du chantage. Alors, non seulement Honeywell veut nous virer en juin 2013, mais en plus, ils ont le culot de nous dire que si nous osons déposer plainte au TGI contre la fermeture du site, c'est-à-dire casser le PSE en justice, eh bien, il n'y aura pas de prime extra-légale. Et que si la productivité continuait comme si elle était actuellement, eh bien, ils fermeraient le site plus rapidement. Non pas en juin 2013, mais plus tôt. C'est petit, mais vraiment, c'est petit, c'est dégueulasse. Vraiment, on a affaire à une belle brochette de pourri.
Bonjour tout le monde, on est mardi 24 avril en début de soirée. Et pour changer un petit peu de toutes les informations qu'on entend à droite et à gauche, je viens de voir les premières hirondelles de l'année. Et c'est toujours un vrai régal. Salut!
Il y a des techniques de communication de plus en plus sophistiquées. Et c'est vrai que ça a été beaucoup le cas depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Des techniques, par exemple, de saturation de l'espace médiatique, de ne pas laisser de place à l'opposition, de ne pas les laisser s'exprimer, de faire en sorte d'occuper tout l'espace possible pour asséner un message.
Et au fond, nous, notre métier, c'est d'être une passerelle, d'être un pont qui se jette entre nos clients et l'ensemble des gens avec lesquels ils veulent communiquer.
Toutes les agences de communication vous diront la même chose. Quand une agence de communication prend le pouvoir, le risque de déraillage est évident.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas, j'y suis avec Pascal Pascariello et Gaylor Van Wimersch. Dans communiquer, il y a comme et il y a...
Ce matin, j'ai rendez-vous donc aux portes ouvertes du groupe Euro-RSCG. Le groupe Euro-RSCG, c'est un groupe de communication qui fait partie du groupe Havas. Et donc le premier actionnaire est Vincent Bolloré. Et ce matin, ils organisent ce qu'ils appellent les portes ouvertes place de la Bastille. Yael Dofner, qui est l'une des personnes qui s'occupe de la presse au sein de groupe, qui m'a envoyé un petit communiqué dans lequel je peux lire, dans le cadre de la journée Agence Portes Ouvertes, Euro-RSCG s'installe place de la Bastille pour une rencontre avec le public à la découverte de ses métiers. Bon, et bon, on va aller voir. Alors ça y est, là je me rapproche de la place. Et enfin, je retrouve Yael Dofner, donc l'attaché de presse, qui m'a bien indiqué qu'il fallait que je l'appelle en arrivant sur la place pour pouvoir rencontrer les directeurs du groupe, les gens en tout cas qui travaillent à l'intérieur de l'agence de communication.
Madame, monsieur, bonsoir. Monsieur le président, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président en exercice se rend dans les studios d'une chaîne de télévision.
Ça prouve que j'apprécie France Télévisions en général et France 3 en particulier.
Et on avait cru déceler des larmes au bord des yeux de Nicolas Sarkozy, mais on ne s'est pas trompé, il vient de les essuyer.
Bonjour, bien, je suis Nicolas Sarkozy, je suis en direct avec vous sur RMC. Vous ne voulez pas poser une question d'actualité sur Carcassonne, sur Carcassonne.
Je vais vous poser cette question de fond. Est-ce que vous allez vous marier avec Carla Bruni et quand?
Ce qui est extraordinaire, c'est que vous m'avez fait la gentillesse d'attendre la deuxième question.
Frégoli, ça vous dit quelque chose? Leopoldo Frégoli. Leopoldo Frégoli, c'est Jean-Claude Guilbeault qui évoque ce personnage. C'était un acteur transformiste du début du siècle qui était capable de jouer 100 rôles différents dans le même spectacle. Et d'un point de vue psychiatrique, le syndrome de Frégoli, ce qu'on appelle le syndrome des Frégoli, c'est ce qui permet à celui qui en souffre de se croire le même quand il est un autre. Et je pense que c'est une bonne vision de la com, Leopoldo Frégoli, de la com qui a imaginé un personnage qui est là depuis 5 ans maintenant, dans nos vies, dans nos télés, dans nos journaux, absolument partout, partout, à chaque instant, et que vous entendez derrière ma voix. C'est une idée de la com. Au début, c'était simplement, on apportait un tonneau afin que le tribun monte dessus et puisse être vu par la foule. Et puis on tendait au tribun un porte-voix pour que sa voix soit entendue par la foule. Aujourd'hui, le tribun est un pantin avec des ficelles qui lui tirent les membres, avec un haut-parleur à la place de la bouche et qui parle, mais c'est une autre voix qui parle. Et ce qui parle, c'est la voix de la com. Jamais la com n'a été aussi puissante, importante, s'est imposée dans la vie en général et actuellement dans la vie politique. On est parti pour ce reportage d'un bouquin très intéressant d'Aurore Gorius et Michael Moreau qui s'appelle « Les gourous de la com, 30 ans de manipulation politique et économique » où il décortique cette manipulation, cette façon de finalement de vider complètement la vie démocratique, la politique, le débat, les idées,
au profit de l'apparence, au profit du gadget, au profit de la diversion et au profit aussi d'une gesticulation afin, justement, qu'il n'y ait pas de débat, afin qu'on ne traite pas les sujets, afin qu'on ne réponde pas aux questions brûlantes, évidentes, qui nous brûlent les lèvres et qui brûlent la vie de pas mal d'entre nous aujourd'hui. Ça vaut le coup de comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est très difficile, parce que les communicants ne communiquent pas. C'est très difficile de communiquer avec des communicants. Ce sont des gens que vous ne connaissez pas, mais qui vous connaissent parfaitement, qui vous scrutent les nerfs et les reins et les cœurs à longueur de temps. Vous êtes pour eux, nous sommes pour eux, des cibles. C'est ça qu'il y a au bout de ce pont dont on parlait à l'instant. Ce pont, à l'autre bout, ben, il y a celui qui veut vous dire quelque chose, vous mettre son ça dans la tête, et pas seulement. Et puis, il y a vous qui êtes de l'autre côté. Alors, on a essayé d'aller chercher derrière le marionnettiste, derrière celui qui se cache derrière le rideau, qui est très puissant, très malin et qui nous manipule. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Dans communiquer, il y a comme et il y a...
De la cour de récré à celle de l'Élysée, exister, c'est exister pixelisé. Il dit tout et son contraire dans un état de névrose. Broqué par l'applaudimètre des émissions qui explosent. Dragué par la caméra, le succès, la beauté ose.
Il s'affiche dans le débat et le ridicule s'expose. Pour loin de l'objectif. Reste objectif.
Objectif.
De la cour de récré à celle de l'Élysée. Exister, exister, c'est exister pixelisé. Depuis qu'il est élu, qu'il a désormais le pouvoir, il change de programme à chaque interview télé. Depuis qu'il n'est plus à l'écoute et qu'il récite son savoir, il fait dans le spectaculaire pour s'assurer son succès. Depuis qu'on est parfait voyeur derrière nos téléviseurs, en bonbons électeurs on ne jure que par le 20h. Victime volontaire, coupable d'être passif, on a dû pour ceux qui ont l'objectif pour objectif.
Il ne savait pas, mais même dans la politique c'est l'éthique qui est vidée, l'esthétique qui est prisée. Mais aujourd'hui il sait que du ghetto à l'Élysée, exister,
exister,
c'est exister pixelisé. Aujourd'hui exister pixelisé.
C'est fou,
on cherche à être étiqueté pour pas exister flou. Civilisation à genoux, lève le poing et se met debout. Seulement devant la caméra et la prise de rendez-vous.
Pour loin de l'objectif. Reste objectif.
Objectif.
De la cour de récré à celle de l'Élysée. Exister, exister, c'est exister pixelisé. Cours loin de l'objectif. Reste objectif.
Objectif.
De la cour de récré à celle de l'Élysée. Exister, exister, c'est exister pixelisé.
Est-ce qu'il y a elle? Vous pourriez me décrire l'installation justement? On est vraiment sur la place de la Bastille.
Oui, on a donc installé, on va dire, une trentaine de tables blanches équipées d'informatique avec des écrans Apple et iMac, exactement comme les bureaux paysagers qu'on peut avoir à l'agence, disposés exactement de la même façon face à l'Opéra de la Bastille.
Alors voilà, Yaël qui est attachée de presse, qui s'occupe de la presse en fait pour le groupe Euro-RSCG, organise un peu, c'est comme ça qu'on organise un peu un reportage, comment on dirige les journalistes, en leur disant plus ou moins je présente un tel ou un tel. Alors c'est assez ouvert, mais il faut quand même voir qu'il y a énormément de sécurité tout autour de l'esplanade. Combien c'est déjà le chiffre d'affaires de RSCG?
Le groupe Havas, c'est de mémoire. Vous savez quoi? Je pensais à ça. Demander peut-être à Stéphane de présenter le groupe Havas dans sa globalité. Il fait 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans la globalité. Nous, on est une filiale. On fait aux environs de 60 millions d'euros de marge brute pour 400 collaborateurs. Voilà.
Je vous amène les gens ici. On a fait une petite pause. Yaël poursuit l'organisation de mon reportage. Elle m'a proposé maintenant de venir voir Stéphane Fuchs pour qu'il me fasse un petit point sur Euro-RSCG. Alors, Stéphane Fuchs est le grand directeur d'Euro-RSCG.
Voilà, donc ça c'est Stéphane, si tu as des questions sur plus, un peu plus...
Sur la communication politique.
Bonjour, toc toc toc.
Et moi, je suis Stéphane Fuchs. Je suis le président d'EuroRSCG et le vice-président d'Havas. Donc Havas, c'est le sixième groupe mondial de communication. C'est 15 000 employés dans 71 pays. C'est un revenu, puisqu'on ne parle pas de chiffre d'affaires comme élément pertinent dans le monde de la communication, un revenu de 1,6 milliard d'euros parmi les meilleurs groupes mondiaux de communication.
Qu'est-ce que ça représente la communication politique, justement, pour un grand groupe
ça représente pas grand-chose en termes d'activité, mais c'est d'abord une formidable école de formation, parce que la communication politique est probablement une des disciplines la plus dure de la communication. Et la communication politique, par sa dureté, par son exigence, est une formidable école de formation pour les équipes de l'agence.
D'ailleurs, on le voit quand vous dites que c'est une école de formation. EuroRSCG a donné aussi des hommes politiques. Je pense à Benoît Apparu.
Oui, qui était un consultant de l'agence.
Qui est ministre aujourd'hui, délégué en charge au logement.
Hein. Oui, bien sûr. Et donc, tant mieux, c'est une fierté pour l'agence, au fond, qu'un de ses consultants soit devenu un ministre. Je dirais que, à l'opposé de quelque chose que je ressens trop souvent, dans lequel on voudrait cloisonner le privé dans le privé, le monde politique dans le monde politique, je suis, moi, très partisan d'une ouverture de la société et de passerelles qui existent, parce que je trouve qu'on est, au fond, dans un monde dans lequel il y a besoin d'une collaboration permanente entre le public et le privé. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre des barbelés sur les frontières qui peuvent exister entre l'entreprise et la chose publique. Les deux sont nobles. Et au fond, nous, notre métier, c'est d'être une passerelle entre nos clients, les annonceurs, et l'ensemble de la société. Au fond, nous cherchons à communiquer avec les consommateurs, avec les citoyens, mais aussi avec les actionnaires, avec les décideurs, avec les acheteurs. Et donc, notre métier est naturellement d'être une passerelle, d'être un pont qui se jette entre nos clients et l'ensemble des gens avec lesquels ils veulent communiquer.
Voilà ce que peut nous dire un communicant, et c'est exceptionnel. Stéphane Fuchs est une star de la communication. Vous devriez vous en rendre compte, être très fier d'entendre la voix de ce garçon. Et là, si vous avez compris, exceptionnellement, cette agence RSCG s'était installée sur la place de la Bastille. Sur la place de la Bastille, il n'y a pas que des énergumènes avec des drapeaux rouges en train de brailler. Il y a des fois des communicants qui cherchent la rencontre avec le public et qui reconstituent leur agence, vous avez vu, avec les ordinateurs, avec les écrans, et qui sont à la disposition alors des journalistes, qui sont très bien soutenus, vous avez vu, bien guidés, bien aidés. Alors comment devient-on communicant avec cette ambiguïté, enfin ce pont qui va des intérêts privés ou des produits à la communication politique?
Vous pouvez défendre autant des hommes de gauche que des hommes de droite, même si EuroRSCG, disons, une histoire plus ancrée sur les hommes politiques de gauche.
Oui, encore que Jean-Michel Goudard travaille pour Nicolas Sarkozy, qu'en 1988, on a fait à la fois la campagne de Mitterrand et celle de Jacques Chirac. C'est vrai que comme agence, comme entreprise, on est d'abord des professionnels.
Alors expliquez-moi un peu, est-ce que vous pouvez rappeler en quelques lignes votre parcours?
J'ai d'abord été producteur de musique, puis chef adjoint du cabinet de Michel Rocard. J'ai fait des études de droit et de sciences politiques, ce qui mène à tout à condition d'en sortir. Et je suis rentré chez RSCG pour créer une petite filiale à l'époque qui s'appelait RSCG Public le 1er décembre 1988.
Vous faites référence à votre parcours également politique, proche de Manuel Valls. Vous le conseillez?
Ça, on n'en parle jamais. J'en parle pas.
Vous en parlez pas?
Non.
Donc en pleine campagne politique, on parle pas de communication?
C'est ça. On n'en parle pas aux médias, donc je vous réponds pas. Notre métier est un métier d'être au service des clients et pas d'être à la place des clients et encore moins des amis. Voilà, mais non, ça c'est très clair, on n'en parle pas.
Bon, si tu veux, j'ai une super good news pour notre agence de pub, Pub of Saint-Ouen. Ouais. On a les pleins pouvoirs pour mener la campagne présidentielle du candidat Jacques Beauregard.
Les gars, j'ai bossé comme un fou toute la nuit, là. Toute la nuit. Et en sortant de boîte de nuit vers 7h du matin, tu vois, j'ai trouvé The ID, tu vois. Alors toute ma stratégie est basée sur le curriculum.
Il a été ministre sous Giscard d'Estaing, ensuite il travaille pour François Mitterrand, et aujourd'hui il hésite entre l'écologie et le Front National, avec lequel il refuse toute alliance.
Voilà. Donc ça nous donnerait Jacques Beauregard pour une politique ferme, mais pas trop.
Ouais. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Mais ça me rappelle quelque chose, ça. Ferme, mais pas trop.
Bah, disons que c'était notre campagne de publicité pour le camembert bridoulou. J'ai repris le concept, mais ça fonctionne.
Ouais, hein. Ouais, non, ça, c'est grave, hein, ça. Parce que si les gens, ils s'en rendent compte...
Oh, les gens...
Ouais. Bah, tu follow.
Ok, je follow. Alors, si j'ai bien compris le profil du candidat, donc Jacques Borgard, c'est l'homme qui rassemble la droite et la gauche dans une nouvelle tendance politique.
Ouais,
hein.
Tout à fait.
Ok, donc ça nous donnerait la droite.
Michael Moreau, donc auteur des Gourous de la Com.
Laurent Gorius, co-auteur des Gourous de la Com aux éditions La Découverte.
Vous êtes tous les deux journalistes, hein?
Exactement, journalistes tous les deux.
Voilà, ils sont journalistes tous les deux et ils ont mis 2 ans pour pondre ce bouquin, Les Gourous de la Com, 30 ans de manipulation politique et économique. Alors, présentation de cet univers.
Aujourd'hui en France, il y a 3 grandes agences de communication. Euro-RSCG qui est aussi une des plus grandes agences mondiales et qui conseille beaucoup beaucoup de politiques et de grands patrons. Vous avez aussi DGM, une autre agence un peu plus petite, et Image 7. Donc ces 3 agences à L3 conseillent les 3/4 des entreprises du CAC 40, plus un grand nombre de politiques.
Alors justement là vous avez donné le nom des 3 acteurs principaux, Stéphane Fuchs pour Euro-RSCG, Anne Méo, Image 7 et Calzaroni DGM. À travers les parcours, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on pourrait faire une petite biographie de qui est Anne Méo, qui est Stéphane Fuchs et Calzaroni? C'est les 3 figures qui ont monté justement les 3 boîtes.
Michel Calzaroni et Anne Méo, en fait, viennent de la droite de la droite. Michel Calzaroni était notamment à Occident, Anne Méo à Ordre Nouveau, tous ces petits groupuscules de la fin des années 60, début des années 70. Et après, elle a bifurqué Anne Méo à l'Élysée, auprès de Valéry Giscard d'Estaing, dans les années 70. Et c'est là véritablement qu'elle a appris à la fois la communication, elle a également appris la maîtrise du pouvoir, les coulisses du pouvoir.
Et à la même période, Stéphane Fuchs arrive aussi à la tête d'Euro-RSCG, d'abord dans la branche pour conseiller les collectivités locales. Progressivement, il va monter dans les échelons et aujourd'hui, il est à la tête d'Euro-RSCG. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces communicants, en fait, ont un point commun, c'est d'avoir une forte socialisation politique à la base et ensuite d'être allés vers les entreprises. Donc c'est comme ça que se déroule leur parcours. Donc Michel Calzaroni et Anne Méo viennent plutôt de l'extrême droite. Ensuite, on fait leurs armes à droite, notamment auprès des libéraux aussi, avec Gérard Longuet, Alain Madelin pour Anne Méo. Et du côté de Stéphane Fuchs, c'est plutôt les réseaux rocardiens. Et aujourd'hui, chez Euro-RSCG par exemple, Stéphane Fuchs a gardé ses réseaux de gauche. C'est un proche de Manuel Valls qui conseille aujourd'hui en charge de la communication de François Hollande dans sa campagne. Et donc les réseaux à gauche, c'est Stéphane Fuchs. Mais chez Euro-RSCG, il y a toujours eu un homme qui s'occupait plutôt de la droite. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la com n'a pas vraiment d'odeur. Il faut conseiller tout le monde. Et il y a toujours eu un homme qui conseille les personnalités de droite. En quelques chiffres, le chiffre d'affaires d'Euro-RSCG, enfin d'Avas, c'est 1,6 milliard. C'est beaucoup. C'est la plus grosse agence en France. C'est une des plus grosses ici au niveau mondial. Les 2 autres, DGM et Image 7, on est sur des périmètres économiquement plus restreints avec une 60aine de collaborateurs, voire un peu moins pour DGM, et plusieurs millions de chiffres d'affaires.
Alors, j'ai fait une campagne d'affichage, tu vois, avec des phrases simples hein, pour les gens, parce que les gens, tu comprends.
Ouais.
Ok, faut cibler. Alors, j'ai fait ça en plusieurs temps, ça nous donnerait. Première semaine, qui c'est qu'il nous faut? Alors, accroche, réflexion, ok. Deuxième semaine, qui c'est qu'il nous faut voter pour? Besoin, nécessité, ok.
Je comprends, là, je comprends.
Troisième semaine.
Mais attends, je t'arrête, il y a combien de semaines, là?
15 semaines.
Allez, la dernière, direct, s'il te plaît.
Ok, là. Si tu veux, pas de problème. Alors, la 15e semaine, The Answer, la réponse, Jack Borgard.
Bon, moi, je pense qu'on retrouve bien dans ses yeux le compromis droite-gauche.
Et c'est efficace, hein.
Ouais.
Sinon, on a des pins Borgard, si
ah
tu
oui,
veux.
Les pins Borgard.
Oui, chaque personne qui votera Borgard gagne un pins.
Voilà. Un pins Borgard. Non, les enfants, c'est out of mode complet, les pins. On peut pas. Si les gens, ils voient ça...
Oui, mais les gens...
Oui, non, mais attention, il faut pas oublier l'éthique de la maison, les enfants. Il ne faut jamais
prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Je sais.
Ce sur quoi on s'est pas mal attardé dans le livre, il y a le côté aussi comment justement les communicants interviennent de plus en plus sur le fond, sur la prise de décision. Et ça a été notamment très fréquent avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy. où là, on a vu beaucoup de communicants en fait à l'Élysée qui ont eu un rôle vraiment stratégique dans la prise de décision. C'était le cas, par exemple, on l'a vu avec Patrick Buisson, on le revoit, qui était vraiment à l'initiative de y compris d'un ministère, le ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale.
Est-ce que vous pouvez rappeler justement qui est Patrick Buisson ?
Alors Patrick Buisson, c'est un ancien directeur de Minute, un ancien journaliste, qui est aujourd'hui l'un des stratèges en communication de Nicolas Sarkozy. C'est lui notamment qui s'occupe de rameuter des voix de l'extrême droite. Ils se connaissent avec Nicolas Sarkozy, ils travaillent ensemble depuis que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, donc depuis 2004. Il était chargé de siphonner les voix du FN, donc déjà dans la campagne de 2007 et à nouveau pendant la campagne de 2012.
Ce qu'il faut aussi noter sur la communication politique, c'est que non seulement ils interviennent sur le fond des messages, ils interviennent sur, comme on disait, les éléments de langage, ce qui contribue à vider même un petit peu, voire beaucoup, le discours politique de son contenu, mais en plus, il y a des techniques de communication de plus en plus sophistiquées. Et c'est vrai que ça a été beaucoup le cas depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, des techniques par exemple de saturation de l'espace médiatique. Ça a été théorisé par les communicants, et notamment Franck Louvrier, qui nous l'a dit clairement, qui nous a dit notre objectif, c'est de saturer l'espace médiatique, de ne pas laisser de place à l'opposition, de ne pas les laisser s'exprimer, de faire en sorte d'occuper tout l'espace possible pour asséner un message. Il y a aussi la stratégie des fumigènes, des contre-feux. C'est d'allumer des contre-feux quand une affaire apparaît, par exemple au moment de l'affaire Bettencourt où le trésorier de l'UMP, Éric Woerth, est mis en cause. Tout à coup, on va lancer une grande opération pour expulser les Roms en France. Donc voilà, il y a comme ça des stratégies de contre-feux. Les fumigènes, l'idée c'est de lancer une mesure. La mesure sur le fond est moins importante que l'effet que ça peut avoir stratégiquement. Par exemple, en 2005, quand il est au ministère de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy défend le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui aujourd'hui est battu en brèche par le même Nicolas Sarkozy, puisque ça fait partie du programme de François Hollande. Ça n'a jamais été repris, mais à l'époque c'était une façon d'essayer de séduire l'électorat à gauche, et ça a été annoncé comme ça dans une interview et jamais repris par la suite. Donc voilà, il y a des effets d'annonce comme ça qui sont purement et simplement stratégiques et qui sont des techniques de com très très perfectionnées.
Et des techniques de com très assumées, parce que finalement, fumigène, saturation, ce sont des mots qui nous ont été dits par ses conseillers en communication.
France 2, 29 juillet 2010.
Bonsoir à tous, bienvenue, voici les titres de votre journal. Éric Woerth récuse les soupçons de financement politique illégal et de conflit d'intérêts. Le ministre du Travail a été entendu près de 8 heures dans le cadre de l'affaire Bettencourt.
France 2, 29 juillet 2010.
Au lendemain des annonces du gouvernement à l'encontre des gens du voyage et des Roms, nous nous sommes rendus dans un campement illégal parmi ceux qui doivent être démantelés rapidement. Et nous y avons trouvé une cinquantaine de personnes arrivées il y a 2 semaines, faute de place dans un campement légal.
29 juillet 2010.
Pour Éric Woerth, une audition en terrain connu. De lourds soupçons qu'Éric Woerth voulait dissiper depuis plusieurs semaines.
29 juillet 2010.
À quelques mètres d'un champ de blé, des gens du voyage ont posé leur caravane sur un terrain privé. Des camps illégaux comme celui-là, le ministre de l'Intérieur a promis de les démanteler. 300 dans les 3 mois, qu'ils soient composés de Roms ou de gens du voyage.
Bon, on commence parce que le temps est compté.
Ouais, il faut que je me présente.
Bonjour, Michel Bétan, je suis partenaire chez Euro-RSCG et je suis spécialiste de la communication politique. Alors j'ai travaillé 19 ans dans le monde politique en travaillant 12 ans pour un parlementaire et 7 ans pour quelqu'un qui est encore actuellement ministre.
Est-ce qu'on peut le nommer ?
Il s'appelle Xavier Bertrand. J'étais son directeur de cabinet à l'UMP et j'ai été son conseiller politique et en communication au ministère.
Voilà, Michel Bétan, qui était donc directeur du cabinet de Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, il est cité très souvent parmi ceux qui étudient la com, comme celui qui assume le fait de faire du théâtre, d'avoir quelqu'un qui lui conseille pour poser sa voix, qui lui apprend à chanter, etc. Et il dit, voilà, c'est tout à fait normal, je suis un homme public, j'ai à m'exprimer, eh bien, je m'entraîne et j'ai aucun...
j'assume ça complètement. La question qui est posée évidemment par les auteurs de ce livre et qu'on peut se poser d'une façon tout à fait légitime, si on a encore un peu le goût de la démocratie, c'est le moment où la com, les communicants, ce que vous entendez, dirigent les opérations. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de démocratie, il n'y a plus de politique, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de quoi que ce soit. C'est simplement des effets de saturation de l'espace, les contre-feux, les effets d'annonce, les fumigènes, etc. Le point de vue de Michel Bétan.
La communication politique est l'ADN de la communication d'entreprise. On peut dire aujourd'hui que toutes les techniques de communication politique ont été transférées dans le monde de la communication d'entreprise. D'ailleurs, les médias training est une spécialité du monde politique qui aujourd'hui est utilisée par de nombreux grands chefs d'entreprise.
Alors on passe au meeting.
Le premier message de ma campagne, c'est que moi je ne veux pas parler, je veux m'adresser à chacun d'entre vous. Parce que les vieux clivages ne répondent pas aux questions d'aujourd'hui.
Bon, d'abord il y a une chose qui est quand même très intéressante, hein, c'est que dans ce meeting, on a bien vu que chez Nicolas Sarkozy, il venait d'innover dans sa campagne, c'est qu'il fait maintenant des meetings sans discours écrit. Il a voulu donner, en termes de communication, un semblant d'authenticité à ce qu'il disait. Alors, ça change tout d'abord parce qu'on n'est pas lié par un texte, on n'est pas lié par le contenu du texte et que, grosso modo, les sujets s'enchaînent. Il a commencé par dire quoi ? Il a commencé sur un sujet et on voit bien qu'il y a un fil conducteur, les syndicats. Et puis la vérité. Et puis, moi, je n'ai pas besoin des corps intermédiaires pour diriger, j'ai besoin de vous. Voilà. C'est ça, la continuité de son discours.
On va dire, il se veut l'homme rassembleur de la France, de gauche comme de droite, en tout cas, peu importe les clivages politiques, et finalement aussi, contredit, c'est-à-dire il commence par dire « je rassemble tout le monde », finalement, il en veut aux syndicats, il en veut aux immigrés, enfin...
Mais clivage très fort, lorsqu'il parle des syndicats, des corps intermédiaires, de l'immigration, des prestations sociales...
Et alors ça veut dire que finalement, après, le fond, peu importe, parce que...
C'est ça la force, en réalité, de la communication directe. On sort du papier et on donne l'impression aux gens qu'en réalité, on leur parle. On lit pas un papier, on leur parle. On voit bien qu'il y a une sorte d'évitement généralisé des questions qui, en réalité, préoccupent particulièrement nos compatriotes. L'emploi, le pouvoir d'achat. Parce que si demain, nous avons une situation financière très difficile et très compliquée... On sait pertinemment que c'est plus exactement le pouvoir d'achat et l'emploi qui vont être les premiers impactés par ça. En réalité, s'il n'y a pas de campagne, c'est parce qu'on ne veut pas dire la vérité aux Français. On assiste à une non-campagne des débats de fond. C'est ça l'intérêt, en tout cas, de ce meeting de nouvelle génération. Avec un objectif, donner l'impression de la sincérité et de l'authenticité. C'est ça l'objectif de tel meeting, aujourd'hui et demain.
Aujourd'hui, je suis venu parler de la France. Jeune, j'ai aimé la France sans le savoir. J'aimais le ciel sous lequel je vivais. J'aimais le son des mots. J'aimais des chansons. J'aimais des musiques. J'aimais des livres. J'aimais le ciel sous lequel je vivais. J'aimais des bords de mer. J'aimais une façon de rire. J'aimais une façon d'être libre. Au fond, j'aimais la France sans le savoir. J'ai fait de la politique. J'ai fait de la politique parce que je voulais agir, je voulais me battre. J'ai compris que le combat essentiel, c'est celui que l'on mène pour le pays qui vous a vu naître ou le pays que l'on reconnaît comme sien. Il n'y a pas un seul combat qui soit supérieur à celui qu'on mène pour son pays.
On va regarder maintenant
le père Hollande.
C'était il y a
regardez.
Plus de 30 ans.
Regardez.
1981. Alors je viens vous annoncer une nouvelle. En 2012, il y aura un président socialiste qui succédera à François Mitterrand.
On a l'impression que c'est Mitterrand qui parle. Il a utilisé quasiment le même timbre de voix. Alors on a dit que cette campagne, que Hollande se mettait dans les pas du président Mitterrand, mais c'est absolument incroyable. La prochaine fois, je pense qu'il va mettre un chapeau et une écharpe rouge. Et après, plus personne pourra confondre.
Chaque jour, et même parfois chaque nuit, il sort une proposition sur l'emploi.
Oui, similitude, hein. On est à la 34e minute. Il est sur quoi ? Je suis content d'être ici, voilà pourquoi je suis là. Et ensuite, il est sur quoi ? Sur la critique du candidat.
Si je reprends mes notes,
sur le meeting de Nicolas Sarkozy. Donc au début, on est ensemble, les syndicats. Pour l'instant, on arrive à 23 minutes. On a des droits et des devoirs, ce qui ressemble d'ailleurs à ce qui était dit en 2007. Il n'y a toujours pas vraiment d'idée précise jusqu'à 30 minutes. Donc, et ensuite, on arrive à la sécurité.
Donc on est toujours, voilà, il y a quand même des points communs. On est bien dans une campagne aux idées pauvres. Moi, j'ai l'impression que c'est « je ne dis rien avant pour tout faire après ». Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Voilà. Voilà, maîtriser la finance. Voilà. Et là, évidemment, c'est une mesure très importante. Qui comprend ce que ça veut dire? Personne. Parce qu'on n'explique pas, on ne fait pas de la pédagogie. La différence, c'est que Mélenchon, lui, même s'il fait des, il dit des choses assez dures, et il n'empêche qu'il fait de la pédagogie.
Ça, c'est du côté Hollande, du côté Sarkozy, c'était reprendre les thèmes habituels de la droite, hein, la sécurité, oui, l'immigration.
Je parlais des deux. Je parlais des deux, en réalité. Là-dessus, ils se ressemblent. Il y a une structuration de discours qui est la même. Ils passent leur temps à s'envoyer des tacles. Bon, il y a une sorte d'unicité, en tout cas dans la forme, même pupitre, même drapeau. En réalité, les propos les plus interpellants pour les gens, ça vient très très tard, en espérant qu'ils n'auront pas retenu ce qui a été dit. Donc autrement dit, c'est très stéréotypé, les meetings aujourd'hui.
Je veux parler au peuple de France.
C'est vous, peuple de France, qui allez décider.
Je veux parler à cette majorité silencieuse.
Il convoque la majorité silencieuse à sa rescousse.
Cette majorité silencieuse.
Cette majorité ne sera pas silencieuse.
Jusqu'à la dernière minute de cette campagne, j'irai à votre rencontre.
Jusqu'au bout, j'irai chercher tous ces électeurs pour les sortir de leur isolement.
Chaque minute, chaque seconde, pour convaincre.
Convaincre les Français qui veulent sincèrement le changement.
Vous êtes la France.
Vive la République.
Vive la France.
Qu'il sache ma joie, qu'il sache ma fierté, qu'il sache ma joie, qu'il sache ma fierté. Je dis ma gratitude aux Françaises et aux Français. Je dis ma confiance aux Françaises et aux Français. Je dis ma responsabilité aux Françaises et aux Français. Je dis l'immense joie aux Françaises et aux Français. Je dis ma méthode française et aux Français. Je dis ma démarche française et aux Français. Qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté, qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté. Toute notre énergie,
c'est une exigence.
Tout notre cœur,
c'est une exigence.
Toute notre compétence,
c'est une exigence.
Toute l'immense joie,
c'est une exigence.
Qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent ma fierté, qu'ils sachent ma joie, qu'ils sachent
ma fierté.
Donc là, on se trouve devant le hall numéro 9 du parc des expositions de Rennes. Et on attend tous la venue du candidat socialiste François Hollande, qui doit là s'adresser dans quelques minutes aux militants bretons venus ici en masse. Il y a à peu près, on attend 10 000 personnes dans ce hall du parc des expositions. C'est un grand hangar en tôle. Et là, il y a tout un parterre de journalistes avec les caméras, les perches, des ingénieurs son. Tout le monde a son petit badge autour du cou. Tous ces journalistes sont là pour couvrir le meeting, le déplacement de François Hollande ici en Bretagne. Donc on attend d'une seconde à l'autre le candidat socialiste, peut-être notre futur président de la République. Voilà Monsieur Fabius qui arrive. La cohue commence. Un peu comme les poissons pilotes autour d'une baleine ou d'un requin. Là, c'est autour des éléphants du PS parce que c'est Laurent Fabius qui est là. Mais c'est content ce qu'il dit.
Est-ce que c'est important qu'il donne un nouveau souffle à sa campagne?
Vous savez, déjà, les sondages donnent des résultats. Si les résultats correspondent aux sondages, on signe tout de suite.
Ce soir, l'événement, c'est surtout les retrouvailles de François Hollande et de Ségolène Royal en meeting commun.
Il y a le fond et il y a la forme.
Et alors, la forme, qu'est-ce que vous en pensez?
Il faut que tous les socialistes soient rassemblés.
Cet agenda du changement, c'est une arme contre Nicolas Sarkozy, contre Jean-Luc Mélenchon, contre les abstentionnistes?
Non, c'est une arme contre autres personnes. C'est la première fois où nous sommes prêts à ce point. Merci.
Ça vous gêne l'aspect romanesque de la soirée, monsieur?
Ah, j'adore le romanesque.
Voilà. Petite causerie, petite question complice, petit rire. Tout le monde est assez content, tout le monde est satisfait, là. iTélé, France 2, Canal+, l'AFP Télé, Europe 1. Ah bah voilà, ça s'agite, là. Tout le monde s'avance. Ils sont tous en face de moi, en fait. Alors on va essayer de compter les caméras. Il y en a à peu près une quinzaine, une dizaine de radios, 15-20 photojournalistes qui attendent sagement, là, on dirait... On pourrait prendre une photo, on dirait une équipe de football. Ils sont tous en randonnion, avec certains qui sont à genoux, d'autres accroupis.
Allez, papa, n'avancez pas.
Non, on n'avance pas.
Non, elle vient ici, là.
Ah, bougez pas, c'est bon, elle va venir.
Ah, voilà.
La voiture arrive, c'est une Toyota Yaris.
Baisse,
s'il te
plaît. Je me fais engueuler. Ah, c'est Ségolène Royal, qui roule en Toyota Yaris. La voilà, elle est radieuse. Elle est magnifique, elle est bronzée.
Bonjour. Est-ce que c'est un meeting un peu particulier pour vous aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Oui.
Pourquoi?
Parce que je suis l'ancienne candidate et donc je vais passer le flambeau à celui qui aujourd'hui peut l'emporter.
Est-ce que vous regrettez ce soir qu'il n'y ait pas eu une telle unité autour de vous en 2007?
Oui, mais cette situation-là appartient maintenant au passé.
Voilà. J'étais juste au pied de Ségolène Royal, c'était assez émouvant. Là, je me suis fait larguer par tous les journalistes qui la suivent, hein, comme des poissons pilotes. Moi, je suis pas pro, quoi. Ils sont tous partis, ils ont tous suivi Ségolène Royal. Je suis le seul à être resté, je suis au milieu de rien. Aïe, aïe, aïe. Vous savez par où arrive François Hollande?
Je pense qu'il arrive ici, hein.
Ici,
un peu comme tout le monde. Hein. Ça va être la belle meute.
Il y a un cortège qui se prépare. Ouais, j'attends ici. C'est la sécurité qui m'a un peu refoulé. Voilà, c'est le cortège presque présidentiel. Voilà le candidat François Hollande qui vient serrer des mains.
Bon courage.
Bonjour François.
Bonjour François.
Bon, François.
Bon,
François. Bon,
bon,
là.
Bravo.
Bravo.
Bonjour.
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 François, on compte sur quoi? On compte sur quoi?
Moi aussi. Et merci d'être
bonjour,
venu.
Bonjour, hein. Président.
Ça va les jeunes, là?
Voilà. Quel accueil.
Oui.
C'est bon.
C'est interdit.
On rentre par où alors?
Là-bas, de l'autre côté.
De l'autre côté.
Mais
c'est pas vrai. Hein. Non,
moi j'ai pas de place.
Alors voilà un meeting à Rennes, vu du côté journaliste. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la communication. Et évidemment que derrière ça, il y a la communication du candidat. Or, il se trouve que celui qui a été désigné comme directeur de la communication de la campagne de François Hollande n'est autre que Manuel Valls lui-même, qui aura, si François Hollande passe sans doute une destinée importante, ministérielle peut-être, en tous les cas, c'est ce qui se raconte. Pour l'instant, il est directeur de la communication. Alors, on a beaucoup évoqué la communication autour de Nicolas Sarkozy, ses techniques, ses innovations, la communication très sophistiquée. Qu'en est-il du côté du candidat Hollande?
On est aux côtés de Manuel Valls, ici au meeting du PS de François Hollande à Rennes, en Bretagne. Et Manuel Valls, pour cette campagne, a été désigné le directeur de la communication du candidat socialiste. Et Manuel Valls a fait un petit peu de son dada, la communication politique. On va aller le voir.
Je vais zoomer la souris, s'il te plaît.
Ça gêne quelqu'un d'être filmé par TF1?
Oui.
Non, mais c'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un peut me débarrasser du directeur de la communication, s'il vous plaît?
Vous voulez un avocat?
Monsieur Valls,
ouais.
Est-ce qu'on peut se dire un mot? Je peux vous suivre?
Vous êtes qui?
Je suis. Je travaille à France Inter, on s'est vu tout à l'heure.
Ah oui, c'est Ben, mais je l'avais pas vu. Bon, il y a encore un bon sondage.
C'est quoi?
C'est ça, on est partout à 30, mais Hollande à 29, plus 3.
Ah oui. Vous n'oublierez pas
discours. Vraiment, le discours, c'est le projet caché, la première partie de Sarkozy. Ce qu'il ne vous dit pas. Et le deuxième, c'est vraiment la feuille de route pour...
Alors justement, c'est peut-être ma première question, vous qui êtes responsable de la communication. Les éléments de langage, aujourd'hui, on va travailler sur quoi au PS ?
On travaille pas sur des éléments de langage. On cherche à faire en sorte qu'évidemment, il y ait une cohérence dans la parole publique, collective, qui est la nôtre. Ça va de soi. Mais on soutient ce que dit, ce que porte le candidat, son projet, son rapport aux Français. Mais nous ne sommes pas dans quelque chose qui est un code fermé, strict, où on perdrait chacun de notre âme.
Quel est le rapport que vous entretenez justement avec les agences de communication ?
Nous travaillons avec une agence de communication, qui est l'agence BDDP, sur tout ce qui est la réalisation du matériel, affiches, tracts, internet. Mais nous gardons, et je garde évidemment, avec le candidat, cela va de soi, et l'équipe de campagne, Pierre Moscovici et Stéphane Le Foll, une vision très politique de la communication. La communication est au service du candidat et pas le contraire. Mais en même temps, ce qui compte, c'est le message. C'est d'abord le candidat, sa personnalité, son caractère, sa force, sa capacité d'entraînement.
Et ça, c'est entièrement les communicants du PS qui travaillent le message politique.
On le met en forme, bien évidemment, mais c'est le directeur de la communication que je suis qui met cela en œuvre, bien sûr.
D'accord. Et on vous sait proche, par exemple, de Stéphane Fuchs, qui est le patron d'EuroRSCG. Vous étiez ensemble, il me semble, sur les bancs de Tolbiac, vous êtes connus à l'époque.
EuroSCG a beaucoup travaillé avec les partis, avec des agences. C'est une agence institutionnelle, c'est un métier, la communication. Mais cette fois-ci, nous ne travaillons pas avec cette agence. Voilà, nous travaillons avec une autre agence qui joue un rôle important à mes côtés, mais qui ne fait pas la communication à la place des politiques. Mais de toute façon, toutes les agences de communication vous diront la même chose. Quand une agence de communication prend le pouvoir, le risque de déraillage est évident. Bien sûr. Il ne peut pas y avoir quelque chose d'artificiel. Sinon, aujourd'hui, les Français décryptent parfaitement. Ils sont surmédiatisés, surinformés. Ils décryptent parfaitement quel est l'aspect factice ou réel d'un message.
Monsieur Valls,
oui, mais j'ai pas beaucoup de temps.
D'accord.
D'avoir ses propres mots, c'est très important.
François Hollande ?
Non, pas simplement parce que les mots ne seraient que astuces, artifices, mais parce que les mots font sens.
5 mai 2010. Hein ?
L'audace créative ou créatrice, il faut l'avoir. L'audace, elle n'est pas simplement dans la conviction du thème. Elle est dans la formule qui va être trouvée. Exactement. Si la formule n'est pas bonne, le thème disparaît. Et elle n'est pas, comme je l'ai dit, un coup de communication. Elle est à un moment ce qui va faire sens dans l'opinion, qui va à un moment faire le déclic. C'est ça l'audace. Et ça n'appartient pas aux agences. C'est un faux procès. On dit, quand même, les publicitaires ont dit non, ça appartient à celui ou à celle qui est candidat, qui doit donner, non pas le slogan, mais le thème et l'audace.
Soit, mais voyons un peu ce que disent nos auteurs, Aurore Gorlius et Michael Moreau, les auteurs de Les Gourous de la Com, qui ont passé 2 ans à observer soigneusement ce petit monde de la com.
Finalement, en 2007, c'était beaucoup plus décomplexé. En 2012, il y a eu la crise qui est passée par là, les communicants ont un peu plus le mauvais rôle, entre guillemets. En 2007, c'était pas tellement le cas, ils acceptaient quand même de dire des choses, notamment à droite. C'est beaucoup plus assumé à droite. Par exemple, Xavier Bertrand nous a raconté à quel point il préparait des émissions de télé en faisant des cours de chant, des cours de théâtre pour la gestuelle. C'est à gauche que ça ne l'a jamais vraiment été. C'est-à-dire que, y compris jusqu'en 2009, il n'avait même pas de directeur de la communication au PS, alors qu'ils en font finalement tout autant, c'est-à-dire que François Hollande est aussi conseillé par des conseillers en com. On a vu des possibles candidats à des moments donnés comme Dominique Strauss-Kahn, très entouré par des conseillers en communication.
T'es beaucoup dans le groupe EuroRSCG, on peut...
Oui, Anomel, son attaché de presse, Ramzi Kirun, l'un de ses bras droits depuis qu'il est passé à Bercy, et qui était à la fois son conseiller au sein de EuroRSCG et en même temps qui conseillait à mi-temps, qui conseille toujours d'ailleurs, Arnaud Lagardère. Donc aussi un mélange des genres à nouveau entre politique et économie. Et puis un garçon comme Gilles Finkelstein qui s'occupait de ses discours. Et cette petite cellule au sein de RSCG était chargée du suivi de Dominique Strauss-Kahn à plein temps lors des crises comme par exemple au moment de l'affaire du FMI, enfin au FMI FMI, le problème avec une des employées du FMI, la petite troupe d'ORSCG a été dépêchée à New York pour déminer la crise. Donc c'était vraiment un suivi très très proche. Donc on voit bien qu'à gauche, la communication, d'ailleurs ORSCG a beaucoup fait les campagnes de la gauche hein, en 81, mais à nouveau en 2002, campagne ratée de Lionel Jospin. Donc à gauche, il y a toujours eu des communicants, simplement à gauche c'est moins assumé. Et d'ailleurs, dans cette campagne, le message c'est de dire François Hollande a des communicants, mais attention, le discours c'est de dire que finalement ces communicants sont au service du politique. Effectivement, il y a quand même des conseillers très proches, Olivier Faure qui est un communicant, évidemment Robert Zarader qui est aussi un communicant très proche de François Hollande. Donc il y a des communicants, ils sont là. Manuel Valls, qui est le directeur de communication de la campagne de François Hollande, évidemment est un proche d'ORSCG et de Stéphane Fuchs. Donc les communicants, ils sont bien bien présents. Et on voit bien aussi qu'en 2012, pendant la campagne, la gauche s'est convertie à la communication. On voit bien que le discours du Bourget de François Hollande avait une mise en scène très très proche du grand raout de certains meetings de Nicolas Sarkozy. Donc la gauche s'est mise aussi à faire de la com. Et c'est faux de dire qu'il y en a moins à gauche qu'à droite. Je pense qu'il y en a autant dans les deux cas. Et c'est juste moins assumé à gauche, je pense, parce que c'est assez mal perçu par les électeurs de gauche et que c'est aujourd'hui une évolution de la politique incontournable.
Le président Nicolas Sarkozy replace l'identité nationale au cœur du débat.
Éric Woerth est un homme honnête. C'est un homme compétent.
La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police.
Dans communiqué, il y a comme, et c'était un reportage de Pascal Pascariello et Gaylor Van Vimerch. Merci à Aurore Gorgus et Michael Moreau, les auteurs de Les gourous de la com, 30 ans de manipulation politique et économique, aux éditions de La Découverte. Demain, la suite, mais vous retrouverez d'ici là toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, on peut se retrouver sur la page Facebook de Là-bas, si j'y suis. Pierre Monsigny et Nicolas Slimani étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages au répondeur de Là-bas, si j'y suis, le 01 56 40 37 37. Demain à 15h, Là-bas, si j'y suis, continue de communiquer avec vous. Il est 16h, passé de quelques secondes sur France Inter. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
François Hollande a l'impression d'avoir été entendu. Le candidat socialiste s'est dit satisfait cet après-midi des propos de Mario Draghi. Le président de réélu, il annonce qu'il fera 4 propositions sur le traité budgétaire. Il vient de le dire à l'instant. Aujourd'hui, le candidat socialiste a donc décidé de s'adresser à la presse à Paris. De son côté, Nicolas Sarkozy est élu en Alsace et le président candidat a annoncé que s'il est réélu sur ce même thème, il fera voter la règle d'or budgétaire d'ici la fin de l'année. Et si le Sénat à majorité de gauche s'y oppose, eh bien il passera par un référendum. Cet après-midi, l'entre-deux-tours de la campagne a donc pris une tournure européenne, mais les thèmes développés ces deux derniers jours persistent, à savoir le vote de l'électorat du Front National au deuxième tour. François Bayrou, qui s'était fait discret depuis dimanche, est sorti cet après-midi de sa réserve. Le président du Modem accuse Nicolas Sarkozy de valider le discours du FN en prétendant que les déséquilibres des comptes sociaux étaient dus aux immigrés. C'est, dit-il, un reniement d'un demi-siècle de politique sociale. En déplacement à Cernay en Alsace, donc aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a de nouveau fait des appels du pied aux électeurs du FN. À propos du vote des étrangers aux élections locales et de la régularisation des étrangers, si les électeurs du Front National veulent ça, alors qu'ils ne nous apportent pas leur suffrage, a déclaré le président candidat. Un départ de feu a touché aujourd'hui une salle des machines de la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin. C'est EDF qui l'annonce sur son site internet. Apparemment, le feu a pris dans la partie non nucléaire de la centrale. Il a été maîtrisé, il n'a pas fait de victimes et il n'a pas non plus affecté la production d'électricité. L'équipementier Silinx, qui fabrique des joints d'étanchéité pour l'automobile, a été placé en redressement judiciaire aujourd'hui. L'entreprise basée à Charleval dans l'Eure emploie 550 salariés. Deux équipementiers américains et polonais ont d'ores et déjà déposé des offres de reprise. Toutes deux prévoient le maintien maximum de 400 emplois. L'UFC Que Choisir porte plainte aujourd'hui contre la grande distribution. L'association de consommateurs dénonce le non-respect de la loi française sur le crédit à la consommation. Un an après l'entrée en vigueur de la loi Lagarde censée protéger les consommateurs, UFC Que Choisir fait état de résultats affligeants. 50 000 personnes à un anniversaire, ça commence à faire du monde. Un adolescent du Puy-de-Dôme qui voulait faire une fête pour ses 14 ans avait décidé d'inviter 29 amis. Voulant l'aider, l'un d'eux a donc créé un événement secret sur Facebook. Résultat, plus de 48 000 jeunes se sont retrouvés invités sur la toile, au point que le père a porté plainte contre X pour usurpation d'identité. Il tente aujourd'hui désespérément de faire clore les sites. Certains des invités ont en effet menacé de tout casser si la fête n'avait pas lieu. Enfin, la plus belle femme du monde s'appelle Beyoncé, la chanteuse et épouse du rappeur Jay-Z vient d'être placée en tête donc du classement du magazine People aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent, mais c'est vrai, pas à tout le monde. 16h03 sur Inter.
Anima Sana.
Incorporé Sano.
Bonjour Margaret.
Bonjour docteur.
Philippe.
Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu.
L'esprit, c'est elle.
Le corps, c'est lui.
Allô ?
Nous vous écoutons.
Nous vous répondons.
Coûte que coûte.
Non mais vous écoutez rien du tout là, c'est pas possible.
Parce que figurez-vous que c'est mon métier d'écouter. Et je pense que, comme vous, nous sommes des gens qualifiés.
À votre écoute, coûte que coûte.
Je crois que je vais raccrocher. Pardon pour tout.
Du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter.
À demain.
France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Vous êtes affairé.
Ah ben oui, toujours. On se prépare, vous savez. Et on aime ça. À bientôt,
allez,
à tout à l'heure en tout cas, à 17h.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, à 16h30, je recevrai deux membres du Quatuor Modigliani. Ils ont gravé un disque dont le titre est Intuition. Ce sont des œuvres de jeunesse d'Arriaga. Enfin, Arriaga, il n'a même pas atteint 20 ans, donc ce n'est pas étonnant. Schubert, même pas 36, ce n'est pas étonnant non plus. Même pas 31, pardon. Mozart, même pas 36. Bref, ce sont des jeunes gens qui jouent d'autres jeunes gens. Et puis, bon, c'est un disque très touchant parce que c'est vraiment le début de carrière, c'est le début de l'inspiration. Il y a des influences déjà, mais pas tant que ça. Enfin bon, c'est un disque dont on va parler, qu'on va écouter avec beaucoup de joie, j'en suis sûr. Il y a un événement dimanche au Parc des Expositions de Colmar. Le Festival International de Colmar célèbre en avant-première les 50 ans de la réconciliation et de l'amitié franco-allemande. Donc il y a un hommage au chef d'orchestre Karl Münchinger. Münchinger qui a été un grand maître en son temps, après la Deuxième Guerre mondiale. Un peu oublié parce que les esthétiques ont changé. La musique baroque, après notre tour, n'a pas dirigé que de la musique ancienne. Pour preuve, il y aura lors de ce grand concert au Parc des Expositions à 17h à Colmar dimanche, je le dis bien, Franz Schubert, Mozart et puis Beethoven, la première symphonie, bah, on va pas dire de jeunesse, il avait déjà une trentaine d'années, mais enfin, donc par rapport à nos artistes Arriaga, Mozart, Schubert qui figurent dans le disque des Modigliani, évidemment il était presque âgé du double. Et on va entendre Münchinger dans le deuxième concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Bien sûr, on ne joue plus comme ça aujourd'hui, peut-être avec moins d'instrumentistes, mais l'élan y est, c'est une belle façon de faire, il n'y a pas de raison de l'oublier. Thank you. Un bel appel pour l'amitié franco-allemande, donc Allegro assai du deuxième concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach avec l'orchestre de chambre de Stuttgart. On n'a pas le nom du trompettiste, mais en tout cas, on sait que le chef, c'était Karl Münchinger, le trompettiste. On le félicite, on sait que Maurice André a fait beaucoup de choses avec Münchinger. Alors peut-être, mais enfin bon, en tout cas, c'est vraiment la façon dont on jouait, un peu plus lentement peut-être que dans les interprétations baroques d'aujourd'hui, d'une manière très solide et tout à fait défendable aussi. Alors voici encore Münchinger, et là vraiment, il y a une relation franco-allemande, puisque nous avons le grand Christian Ferras dans sa splendeur.